place publique.
Faut-il permettre l'espionnage des assurés pour dénoncer les abus ou s'agit-il d'une violation massive de notre vie privée? La question est posée en votation le 25 novembre. On ouvre le débat dans un instant. Surveillance toujours, mais cette fois-ci des élus et des partis politiques. Les affaires récentes du côté lémanique donnent des ailes à tous les partisans d'une plus grande transparence et d'un meilleur contrôle. On le verra notamment dans le canton de Neuchâtel. Le canton de Berne doit mieux tirer profit de son bilinguisme. Pour cela, il faut investir de l'argent et se doter d'une loi. La directrice du Forum du bilinguisme nous rejoint tout à l'heure pour évoquer les mesures qui s'imposent.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Faut-il autoriser l'observation secrète des assurés au bénéfice de prestations sociales pour prévenir les abus? Les citoyens suisses voteront dans 10 jours sur cette question. Pour les défenseurs de cette mesure, à commencer par le Conseil fédéral, il s'agit d'autoriser une surveillance strictement cadrée. De quoi prévenir les abus et maintenir la confiance envers un système important pour notre société. Du côté des opposants, on dénonce des méthodes de surveillance arbitraires qui violent massivement la vie privée de tout un chacun, sans contrôle digne de ce nom. Les détectives des assurances auraient même plus de droits que la police et le service de renseignement. Alors on débat de la surveillance des assurés avec nos deux invités, à commencer par vous Valérie Bourdin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de l'Association Suisse des Assurances pour la Suisse romande, bienvenue. Et avec vous également Florence Natter, directrice de la coordination romande des associations d'action pour la santé psychique. Florence Natter, qui est aussi députée et présidente du Parti Socialiste Neuchâtelois. Bonsoir.
Bonsoir.
Valérie Bourdin, on commence avec vous. Qu'on comprenne bien qui est concerné par ces éventuelles observations secrètes, par cette surveillance. Est-ce que ce sont à peu près tout un chacun, tous les assurés?
Non, absolument pas. Avec cette loi, il s'agit simplement de pouvoir mettre le droit sur des personnes qui touchent de manière indue des rentes sur plusieurs années, et ceci au détriment de vous et moi, c'est-à-dire les assurés. Sont concernés moins de 1% des assurés.
Florence Natter, pour ce pourcentage très réduit des assurés, est-ce qu'il y a lieu de s'opposer face à des mesures qui peuvent être légitimes? On va le voir tout à l'heure.
Justement, je pense qu'on pourrait prendre l'objet dans son sens contraire, parce que dans le fond, s'il y a si peu de personnes qui sont concernées, pourquoi mettre en place une telle disposition dans la loi? Mais au-delà de ça, je pense que c'est important de rappeler aux auditeurs le périmètre vraiment de cette loi. Il s'agit d'une modification de la loi sur la partie générale des assurances sociales. Alors évidemment, quand on parle d'assurance sociale, on pense souvent à l'AI, par exemple. C'est souvent d'ailleurs celle qui est montrée du doigt. Mais toutes les assurances privées qui pratiquent l'assurance sociale, comme par exemple les caisses maladie qui pratiquent l'assurance maladie ou les assurances privées qui pratiquent l'assurance accident, sont aussi évidemment concernées. L'assurance maladie et l'assurance accident, on est tous concernés. Donc cette loi, elle concerne tout le monde. Et je pense que la présence de Mme Bourdin ce soir dans ce débat l'illustre bien, puisque vous êtes porte-parole d'une association des assurances privées. Donc potentiellement, oui, on est tous concernés.
Valérie Bourdin, potentiellement, tout le monde est concerné?
Alors, tout le monde est concerné, bien sûr, en tant qu'assuré qui n'a pas envie de payer pour les autres et de se faire accuser de fraudeur pour un tout petit pourcentage. Maintenant, pour revenir sur les propos de Madame, oui, il y a très peu de cas, mais ce sont des cas qui coûtent extrêmement cher. Et encore une fois, au détriment de tous les autres assurés. On parle de rentes annuelles qui, sur des années, peuvent se monter en millions.
Florence Natter, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une surveillance. Il en va de la confiance qu'on a envers le système. Un système qui est aussi assez souvent, il faut le dire, attaqué par une certaine frange de la politique, des élus, notamment à droite. Est-ce que c'est pas de bonne guerre de permettre aussi des moyens de surveillance qui fonctionnent? On n'a rien sans rien.
Mais je crois que pour nous, c'est clair qu'on ne conteste pas le principe même de lutter contre la fraude et effectivement de débusquer les personnes qui abuseraient du système et des assurances. Maintenant, la fin ne justifie pas tous les moyens.
Vous dites débusquer quand même, ce mot est fort. Débusquer, ça veut dire quand même prendre en flagrant délit Et utiliser des moyens qui sont efficaces.
Voilà, moi je crois que ce qu'on doit mettre vraiment en lumière aujourd'hui dans ce débat, c'est qu'avec cette modification de la loi, dans le fond, on confierait aux assurances, donc aux responsables des assurances, qui par ailleurs ont quand même aussi des intérêts économiques dans l'affaire, on leur confierait des compétences que même la police n'a pas droit de la même façon. Aujourd'hui, la police qui veut surveiller quelqu'un au-delà de 30 jours doit avoir une autorisation du ministère public, dans une instance de la justice, quelqu'un d'extérieur, alors que dans le fond, avec cette modification de loi, les assurances pourraient le faire potentiellement jusqu'à même une année. Donc il y a vraiment une disproportion des moyens qui sont envisagés. Je crois qu'il aurait suffi que le Parlement fasse un tout petit bout l'examen un peu plus précis de cette proposition et je pense que le débat d'aujourd'hui n'aurait même pas lieu.
Valérie Bourdin, on le voit, il y a une nuance de taille, c'est l'accord ou non d'un juge pour engager des observations secrètes. Qu'est-ce que vous répondez à Florence Natter qui dit que c'est disproportionné de confier aux assureurs des pouvoirs que même la police ou le service de renseignement n'ont pas?
Alors, c'est très intéressant et ça me permet de mettre en lumière un aspect très intéressant. On mélange deux choses. Nous, on se retrouve actuellement dans le cadre du droit administratif et non pas du droit pénal. Dans le cadre du droit administratif, l'assurance a pour mission de clarifier le droit aux prestations. Et dans ce cadre-là, elle est amenée à faire des surveillances, mais à vérifier certains documents quand il y a un doute. Et parfois, quand il y a vraiment des doutes qui persistent et des indices très concrets, et que toutes les autres mesures ont été utilisées, l'assurance n'a pas d'autre moyen que l'observation pour pouvoir faire la preuve d'un abus, d'une fraude. Et c'est dans un deuxième temps, effectivement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de mesures, on les abordera peut-être tout à l'heure, pour assurer la sécurité, la protection des assurés. L'assuré va être informé de cet état de fait, de cette observation qui aura eu lieu, et libre à l'assuré de porter plainte. Et ensuite, on arrive devant un juge qui va prendre position. Mais dans le cadre d'un droit administratif, on ne part justement pas du principe que les assurés sont des fraudeurs. L'idée, c'est de justement déterminer si une personne a droit à une prestation ou pas.
Est-ce que vous n'agitez pas les peurs, Florence Natter, en disant que ça concerne tout le monde? Or là, on voit que c'est plutôt une mesure de dernier recours, une fois que tous les autres moyens de vérification ont été épuisés.
Oui, c'est une mesure de dernier recours, mais qui est laissée en main de l'assurance elle-même. De l'assurance qui, potentiellement, justement, quand elle pratique, enfin, qu'elle pratique à la charge de l'assurance sociale ou privée par ailleurs, son objectif, c'est aussi plutôt de faire des mesures d'économie, d'éviter effectivement des prestations qui seraient versées à tort. Donc, comment cette assurance va pouvoir définir qu'est-ce que seront des indices concrets? Je crois qu'il y a un pouvoir trop important qui est donné aux assurances, qui sont par ailleurs, de leur côté, elles non plus, pas toujours exemplaires dans leur façon de pratiquer leur mission. Donc, ce qu'on demande juste, c'est de recourir au service du juge, qui a une appréciation objective, extérieure et neutre, et qui peut ordonner cette surveillance. Le juge le fait pour les moyens de géolocalisation. Potentiellement, la décision peut être rendue dans un délai de 5 jours. Donc c'est tout à fait acceptable pour des mesures de ce type-là, mais on ne peut pas laisser cette appréciation et ce pouvoir aux assurances.
Valérie Bourdin, on va détailler dans un instant ce que dit la loi et ce qu'elle ne dit pas en termes de mesures et de garde-fous. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que, pour vous, les précautions sont suffisantes pour qu'on fasse confiance aux assureurs, pour qu'ils ne visent pas seulement leur propre intérêt, mais visent vraiment une telle enquête, de telles observations en dernier, ultime recours?
Absolument. Faire appel directement à un juge, c'est partir du principe de la criminalité qu'un assuré est automatiquement dans une situation de fraude à l'assurance. Le rôle de l'assurance, c'est de démontrer si oui ou non c'est le cas. Et ça part déjà dans une idée dans une bonne volonté d'assurer justement, si je peux dire, la sécurité des assurés. si on en revient, madame, comme l'a dit madame, je représente les assureurs privés. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que non seulement on parle de très peu de cas d'observation, mais que dans plus du deux tiers des cas, on nous donne raison. Donc ça, c'est le meilleur argument, j'ai envie de vous dire. Et pour rester dans les assurances privées, parce que j'en suis la représentante, nous parlons de 100 cas par année et nous avons quasiment du 90% de taux de réussite. Donc ça montre quand même que c'est pas l'idée de pointer du doigt tout le monde. Et si on le fait, c'est qu'on a des raisons plus que fondées de le faire.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et on débat de l'espionnage, la surveillance des assurés pour dénoncer des abus. C'est en votation le 25 novembre. On va maintenant s'attarder un tout petit peu plus en détail sur ce que prévoit cette loi en termes de garde-fous. Florence Natter, est-ce que vous craignez que finalement cette surveillance puisse avoir lieu dans un lieu privé? Il est question des salons, des salles de bain. Est-ce que pour vous les garanties sont de loin pas suffisantes?
Alors, je crois que les garanties sont de loin pas suffisantes, mais j'aimerais juste rebondir sur les propos de tout à l'heure de Madame Bourdin. Le recours à l'autorisation du juge, elle l'explicite comme quelque chose qui pourrait signifier criminaliser. Au contraire, je pense que c'est plutôt justement garantir l'état de droit quand il s'agit d'engager des mesures qui portent à atteinte à la sphère privée de tout un chacun. La surveillance, elle peut être organisée depuis un lieu qui est accessible, depuis un lieu accessible est visible depuis un lieu public, donc potentiellement quelqu'un qui a son salon, qui a pignon sur rue, pourrait être surveillé. Et c'est quand même une atteinte lourde à la sphère privée. Donc je pense que le recours au juge, au contraire, c'est garantir l'état de droit. Et puis Madame Bourdin disait, dans le fond, la loi prévoit que les personnes seront informées après. Donc si la surveillance est injustifiée, elles pourront porter plainte. Mais Madame, pensez-vous que les assurés, pour la plupart, étant dans des situations modestes, auront les mêmes moyens que vous, les assurances, avaient pour recourir à des avocats pour défendre leurs droits? Non, sincèrement, non.
Valérie Bourdin, plusieurs questions qui vous concernent. On commence par celle qui veut que même le Conseil fédéral concède qu'il s'agit d'une atteinte grave à la vie privée et qu'il faut des garde-fous. Est-ce que selon vous, la loi est suffisamment explicite en matière de garde-fous par rapport au fait qu'un détective puisse par exemple observer quelqu'un dans son salon ou dans sa salle de bain depuis la rue?
Absolument. La loi assure les garde-fous suffisants. De quoi est-ce qu'on parle? On parle d'enregistrement visuel ou sonore. Uniquement si la personne observée se trouve dans un lieu accessible au public, j'entends la rue, un magasin X ou Y, ou dans un lieu visible depuis un lieu accessible au public.
Donc balcon, depuis la rue dans son
oui.
salon.
Voilà, balcon, oui, jardin, oui. Je ne dis pas qu'une personne ne sera pas vue depuis la rue dans son salon si elle se tient à sa fenêtre. Ce ne sera simplement des données qui ne seront pas utilisables. Le Conseil fédéral a été clair, le Parlement a été clair, il y a des arrêtés, un arrêté fédéral qui a été publié. Cette information ne sera simplement pas recevable. Est-ce qu'un assureur veut perdre du temps à récolter des informations qui ne seront pas recevables pour un juge?
Valérie Bourdin, dernière question à vous. Oui. Qu'en est-il du contrôle des contrôles? Qui va s'assurer que ces contrôles sont réalisés dans les règles de l'art?
Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Hein. Premièrement, il faut qu'il y ait, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait un doute absolument fondé. Il faut que toutes les autres mesures aient été utilisées. Et c'est uniquement là qu'on va pouvoir lancer une procédure d'observation, cette mesure de l'observation, et c'est uniquement la direction d'une assurance qui pourra prendre cette décision. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? L'observation pourra avoir lieu pendant 30 jours, sur un délai de 6 mois, éventuellement, encore il faudra le justifier, prolongation sur une année. Et suite à cela, l'assureur est tenu d'informer l'assuré qu'il a été observé, de lui fournir tout le matériel et de détruire ce matériel, sauf si l'assuré désire ce matériel pour éventuellement réagir à cela.
Donc des règles très précises, Florence Natter,
des
pas
règles
de
très
quoi...
précises. Et encore une fois, juste pour préciser, il y a une ordonnance qui est sortie aussi, qui définit exactement les compétences des détectives et aussi pour assurer la qualité des détectives.
Florence Natter, on termine avec vous.
Ce que le Conseil fédéral a mis dans une ordonnance, dans le fond, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mis dans la loi? Ça, c'est la première chose. Et puis, les règles très précises. Oui, madame, des règles très précises qui seront, dans le fond, évaluées et mises en œuvre par des hommes et des femmes qui sont à la tête d'assurances, des assurances qui ont aussi, effectivement, je le rappelle, leurs intérêts dans l'affaire. Donc, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'aujourd'hui, on veut donner pour quelques cas qu'on doit effectivement combattre des pouvoirs supérieurs à ce que la police dispose. Encore une fois, je pense que c'est important de le rappeler pour quelques cas.
Ce ne sont pas des pouvoirs supérieurs à la police.
Oui, madame, parce que la police, à partir de 30 jours, doit avoir une autorisation du juge pour poursuivre une surveillance.
Merci à toutes les deux d'être venues défendre votre point de vue en lien avec cette votation qui se tient donc le 25 novembre sur la surveillance des assurés. Il y avait vous, Florence Natter, directrice de la coordination romande des associations d'action pour la santé psychique, et vous, Valérie Bourdin, porte-parole de l'association suisse d'assurance pour la Suisse romande. Merci à toutes les deux, bonne soirée.
Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée.
Place publique.
Les élus et les partis politiques doivent-ils faire preuve de davantage de transparence? Faut-il accentuer la surveillance? Encore elle, on se pose ces questions après que plusieurs affaires ont éclaté ces derniers mois en Suisse romande côté lémanique. Ces affaires ont mis au jour des comportements éthiquement condamnables ou pour le moins discutables. Mensonges sur l'origine d'un voyage aux motivations opaques, notes de frais stratosphériques aux frais des contribuables genevois, campagne électorale soutenue par un milliardaire au bénéfice d'un forfait fiscal. Alors, comment éviter que la défiance s'empare de la population à l'égard de celles et ceux qui les représentent ou les gouvernent? Nos deux prochains invités ont tous deux un pied dans la politique et ils sont préoccupés par ces questions. Ils ont chacun proposé une mesure pour assurer ou restaurer un lien de confiance entre le peuple, et les élus et les partis. Doris Angst, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée des Verts au Grand Conseil de Neuchâtelois et sous votre impulsion, Neuchâtel est depuis 3 ans l'un des rares cantons suisses à disposer d'une loi sur la transparence du financement des partis. Bienvenue. Avec nous également Freddy Rumeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous proposez avec votre parti la création d'une Cour des comptes, soit un organe de surveillance indépendant, autonome. Votre initiative ayant abouti, le peuple neuchâtelois votera sur cette question au plus tard 2020. On commence avec vous, Doris Angst. Un mot d'abord sur l'actualité récente. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans les affaires relayées dans la presse ces dernières semaines?
Alors, entre les différentes affaires, je pense que ce qui m'a interpellé le plus, ou peut-être choqué le plus, c'est quand même les notes de frais faramineux des élus du canton de Genève, en fait. Parce que c'est là où on utilise l'argent du contribuable, et puis on voit que des règles claires dans ce sens-là seront très importantes. Oui, ou sont très importantes aussi. Et puis également, en fait... l'attitude éthique envers les dépenses qu'on a.
Même question à vous, Frédéric Rumeau. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces affaires révélées ces derniers mois?
Ah, mais moi également, c'est cet objet, d'autant plus que l'affaire a été mise en avant par la Cour des comptes, précisément, qui existe à Genève. Il n'y a que deux cantons romands qui ont une Cour des comptes, Vaud et Genève. Et j'espère bientôt le canton de Neuchâtel. Et sans cet examen de la Cour des comptes qui a été interpellé dans un contexte qu'on ne connaît pas exactement, on ne parlerait pas de cette affaire aujourd'hui. Ça m'interpelle davantage que les questions qui ont été soulevées autour de ces élus qui ont reçu des financements pour leur campagne politique, financements dont certains concernent des milliardaires. Ça, c'est évidemment un problème également, mais qui est lié à l'initiative de la personne que vous avez également invitée. Mais pas directement, concerne pas directement les objectifs ou le fonctionnement de la Cour des comptes.
Alors avant d'aller un peu plus en détail sur vos mesures respectives, est-ce que selon vous il s'agit de nouvelles dérives ou est-ce que c'est le seuil de tolérance qui aujourd'hui n'est plus le même, Doris Angst?
Alors pour moi c'est clairement les seuils de tolérance qui ne sont plus les mêmes. On ne sait pas que si si de telles choses ont déjà eu lieu avant. Enfin, apparemment, en fait, ce qui concerne Genève, ça dure au moins depuis 10 ans, hein, mais c'était peut-être déjà le cas avant. Et je pense que c'est surtout aussi dû, en fait, à l'absence de règles claires, hein, parce que les deux ou trois affaires, on voit très clairement qu'il n'y a pas de règles, disons, pour les notes de frais, il n'y avait pas de règles claires à l'interne, d'après ce que je sais, pour Genève. Et puis pour la transparence, enfin pour le financement des partis ou des campagnes politiques, mais dans la plupart des cantons, il n'y a pas non plus les règles. Il y a des règles d'ailleurs, à part ça, dans le canton de Genève, le Tessin et puis le canton de Neuchâtel.
Freddy
mais
Rumeau,
dans le canton de Vaud, il n'y en a pas.
Mm-hmm. Freddy Rumeau, pour qu'il y ait des contrôles, il faut aussi qu'il y ait des règles. Est-ce que vous pensez que les mentalités ont changé et il faut qu'on encadre mieux et plus l'activité politique?
Je pense que des règles, il y en a partout, il y en a constamment. Je crois que les législateurs pondent des règles constamment. À la fin, il y a également beaucoup de lois, mais le problème, c'est l'application de ces lois, souvent. Alors évidemment, on est aussi face de temps à autre à des lacunes ou à des règlements mal faits. Typiquement à Genève, on a des gens qui marchent à des notes de frais absolument considérables, mais semble-t-il dans la légalité, ou qui arrivent, à part un ou deux cas qui relèvent peut-être du droit pénal, mais de façon générale, qui arrivent à s'accommoder de cette situation parce qu'ils recourent à des interprétations de la loi qui sont acceptables. Donc c'est la loi, oui, l'encadrement légal, oui, ou législatif, il me paraît indispensable, mais il y a aussi l'application de cette loi qui entre en jeu. Et puis l'évolution des mœurs, comme vous dites, vise à toujours plus de transparence. Aujourd'hui, tout s'étale sur la place publique beaucoup plus qu'autrefois. L'influence médiatique est telle que la population est de plus en plus sensibilisée à ce qui peut se passer, en particulier aux injustices. Donc, il y a une exacerbation de la population à travers les réseaux sociaux, notamment, qui se développe aussi. Et ça incite à alors davantage de précision dans la loi et davantage de rigueur dans l'application des lois.
Et on a l'impression que les fronts bougent. Hein. Vendredi dernier, une commission du Conseil des États a plaidé pour un contre-projet à l'initiative pour plus de transparence dans la vie politique. Une loi sur la transparence du financement des partis existe dans le canton de Neuchâtel grâce à vous, Doris Angst, on l'a dit. En fait, cette loi oblige les partis à communiquer les dons ou les promesses de dons de 5000 francs et plus. 3 ans après l'instauration de cette loi, est-ce qu'on peut dire qu'elle a porté ses fruits? Est-ce que selon vous, il faut aller plus loin?
Alors c'est difficile pour dire si ça a porté ses fruits. Je pense que ce qui est un avantage, c'est que maintenant, les personnes qui le désirent, ils peuvent aller voir les comptes des partis. Les comptes des partis doivent être déposés auprès de la chancellerie. S'ils ne le font pas, ben, ils ne reçoivent pas non plus le soutien du canton. Et une autre chose qui est également importante, à mon avis, c'est en fait, ça ne compte pas seulement pour les partis, mais ça compte aussi pour les campagnes politiques. Enfin, s'il y a des personnes, des candidats qui reçoivent de l'argent, ou bien il y a pour des campagnes référendaires, ou etc., il y a chaque groupement qui participe à une campagne ou à une votation. S'ils reçoivent un don de plus de 5000 francs, ils doivent l'annoncer.
Freddy Rumeau.
Donc, à mon avis, ça éclaircit quand même un peu les choses. Et puis, c'est important pour la démocratie parce que les gens, ils ont quand même le droit de savoir d'où vient l'argent, enfin, à partir d'une certaine somme, en tout cas.
Frédéric Rumeau, de votre côté, hein, c'est l'idée d'une Cour des comptes qui fait son chemin avec votre initiative populaire qui a abouti. L'un des arguments forts, c'était de dire que vous allez pouvoir, grâce à cet instrument, on va pouvoir mieux décrypter les dépenses de l'argent du contribuable, notamment dans les gros postes du budget, comme le domaine hospitalier. Mais est-ce que cet organe de contrôle aurait aussi vocation à surveiller de plus près les dépenses de fonction de nos élus ?
Évidemment, hein, le panel des activités de cette Cour des comptes est extrêmement large. Il a l'avantage, comme vous le savez, donc, d'avoir une indépendance politique totale. C'est absolument assuré au niveau électif. Il a une durée de fonction, les magistrats de cet organe auront une durée de fonction de 6 ans. Et n'importe quel citoyen peut saisir la Cour des comptes, hein, d'après ce qui est prévu, sur n'importe quel sujet, la Cour des comptes se saisira de ce qui lui paraît sérieux et ce qui lui paraît compatible avec les moyens dont elle dispose, les moyens organiques dont elle dispose, mais ça lui permet de contrôler toute affectation de l'argent public et d'aller mettre son nez un peu partout. On ne peut pas lui opposer le secret de fonction, de sorte que grâce à... Il ne faut pas voir ça comme un contrôle du genre flicage. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu, parce que cette Cour des comptes, elle va rechercher les problèmes, voir où l'efficience pourrait être augmentée, puis ensuite publier des recommandations. C'est dans ce sens qu'elle agira. Mais évidemment, une situation comme celle qui se passe à Genève pourrait très bien se passer également à Neuchâtel.
Doris Angst, pour terminer, est-ce que vous, ça vous parle, cette Cour des comptes? Vous êtes en faveur de cette idée?
Alors, je dois dire que tout au début, quand j'ai vu cette initiative, moi, j'étais pas très en faveur de cette idée, parce que je m'étais dit, bon, chez nous, on a le contrôle des finances, qui font déjà une partie du travail. Maintenant, je suis en train de réfléchir, quoi, et puis je pourrais peut-être changer d'avis, parce que c'est clair, les contrôles de finances, en fait... Il n'y a pas n'importe qui peut saisir, par exemple, des contrôles de finances et puis demander qu'est-ce qu'il en est. Ils contrôlent régulièrement des services, mais bon, ils rendent rapport au Conseil d'État et puis ils contrôlent, en fait, ils peuvent contrôler le canton, mais ils ne pourraient pas regarder, par exemple, ce qui se passe dans une commune. Donc, vu les situations actuelles, il me semble que... Une Cour de compte aura certains avantages et puis mérite en tout cas qu'on y réfléchisse. Peut-être qu'il y a d'autres solutions hein, quand même pour trouver, pour avoir plus de transparence et puis pour contrôler certaines choses. Mais je me dis pas non plus, il ne faut pas que ça vienne d'un sentiment de défiance parce qu'on ne va pas soutenir chaque personne non plus de faire des fautes ou bien chaque gouvernement de faire des fautes ou bien de ne pas avoir des règles éthiques. Enfin, j'espère quand même encore qu'il y a des politiciens qui ont des règles éthiques pour eux-mêmes et puis qui n'acceptent pas des dons de n'importe quoi.
Vous entrez en matière. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus dans Place Publique nous parler de vos idées respectives. On vous souhaite une bonne soirée à tous les deux, Doris Angst et Freddy Rumeau. Au revoir.
Au revoir. Bonne soirée à vous.
Place Publique.
Le canton de Berne doit mieux mettre en valeur son bilinguisme. Une commission d'experts mandatée par le gouvernement bernois a présenté hier les conclusions d'une enquête réalisée en ligne au mois de janvier de cette année auprès de 500 personnes issues de tout le territoire cantonal. Et il en ressort que le bilinguisme ne doit plus être considéré comme un fardeau, mais comme une richesse et une opportunité pour se démarquer d'autres cantons. Les experts ont formulé toute une série de recommandations pour mettre en œuvre une nouvelle stratégie du bilinguisme. Et on en parle avec vous, Virginie Borel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le Forum du bilinguisme, bienvenue. Alors votre fondation, on le souligne, a collaboré à cette enquête et à ce rapport. Alors avant d'évoquer certaines des recommandations, un mot quand même sur cet appel lancé au gouvernement bernois. Le bilinguisme ne doit plus être considéré comme un problème, il faut changer de paradigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait tout faux jusqu'à présent?
En tout cas, c'est ambitieux. Je pense qu'il faut simplement être maintenant... faut vouloir réaliser ses objectifs. Effectivement, il y a 3 cantons bilingues allemand-français. Et puis finalement, au-delà des mots, il ne se passe pas grand-chose. Et je pense que le canton de Berne, là-dessus, a pu être relativement audacieux en lançant cette commission, puis surtout en proposant des recommandations bien concrètes.
Et pour ne pas s'arrêter aux belles intentions, vous le dites, il faut un cadre, il faut une loi, mais il faut aussi, du coup, un fonds, des moyens, de l'argent.
Oui, alors c'est clair que, voilà, on revient rapidement à ça. Je pense qu'il faut quand même placer ça dans un contexte politique. Je disais, c'est une démarche audacieuse de la part du canton d'avoir mandaté une commission pour réfléchir à ça, à ce positionnement, parce que finalement, c'est ça avant tout, c'est une volonté. Alors, ce qui a été intéressant dans le cadre du baromètre de la population du canton, ça a été de savoir, on avait des doutes, en fait. Que pense la population? Est-ce qu'elle tient à son bilinguisme ou finalement, c'est simplement une volonté politique?
Et pas qu'à Bienne ou dans le Jura bernois, dans tout le canton?
Non, dans tout le canton. Et puis, effectivement, quand le chiffre de 69% de ces 500, évidemment, c'est peu, mais qui représente quand même toutes les catégories d'âge, les hommes, les femmes, etc., disent oui, on y tient, mais par contre, il faut véritablement faire des efforts pour s'approcher de la culture partenaire. On se dit que là, il y a matière à progresser.
Alors, vous contribuez avec votre fondation, le Forum du bilinguisme, à promouvoir le bilinguisme dans le canton de Berne. Vous êtes pour cela soutenu par le canton, la ville de Bienne, la Confédération. On parle de plusieurs centaines de milliers de francs par année. sans parler encore de l'argent investi par le canton pour son administration, pour les traductions. Il faut aller plus loin, il faut plus d'argent.
Oui, c'est clair que c'est quand même le nerf de la guerre. Il y a d'abord un positionnement, une volonté claire et ferme. Je pense qu'avec ce document, s'il est avalisé par le conseil exécutif d'ici l'été 2019, ben, on pourra véritablement aller de l'avant. Et après, on parle d'un fonds pour ce bilinguisme. Alors, je pense que ça fait tout de suite peur, en disant, mon Dieu, on va nous demander des millions pour développer ça. Il faut rappeler que le budget du canton de Berne, ce sont 10 milliards de francs par année, et que pour l'heure, on en est, pour le bilinguisme, à moins, à 0,6%. Donc c'est très très peu, on peut qu'améliorer la situation. Je pense qu'il faut toujours pondérer ces chiffres, puis se dire qu'avec déjà quelques centaines de milliers de francs, on arriverait déjà à faire de grandes choses et sensibiliser beaucoup plus largement la population.
Et on comprend mieux pourquoi on a besoin d'argent. Par exemple, pour assurer une administration bilingue, c'est des moyens colossaux. En force humaine, en énergie.
Oui, je pense qu'il ne faut pas toujours, il faut pas vouloir radicaliser les choses. Il reste quand même qu'il n'y a que 10% de francophones dans le canton de Berne. Ça, on ne va pas pouvoir le faire changer simplement par une volonté politique.
Mais il y a cette volonté dans le catalogue des mesures d'augmenter la population francophone.
D'augmenter la population francophone. C'est vrai que le canton de Berne ne joue pas cette carte-là. Nous sommes un canton bilingue. On a envie de voir des francophones venir habiter chez nous. C'est une carte qui n'a pas du tout été jouée. Pareil pour le tourisme, l'économie joue peu aussi. Donc on voit qu'il y a véritablement plein d'enjeux et d'endroits où on peut améliorer la situation.
Et donc le départ de Moutier est un poison, parce que là on parle de francophones qui pourraient partir.
C'est un poison, oui et non, parce qu'en même temps, c'est une thématique qui alourdit toujours cette question des langues. Et quelque part, c'est vrai que c'est un hasard du calendrier si le rapport a été rendu public ce lundi. Mais c'est vrai que finalement, on se disait, ben voilà, maintenant l'affaire de Moutier est réglée, puis on va travailler avec ceux qui restent. Alors bon, ben, on ne peut pas le dire aujourd'hui, on revient un tout petit peu en arrière. Mais effectivement, je pense qu'il faut dépasser cette question-là et puis parler du canton de Berne comme une entité.
Alors, il y a plusieurs domaines où le bilinguisme peut être amélioré, notamment dans le domaine de l'école, de la formation, en encourageant les échanges, en améliorant l'enseignement, en favorisant aussi l'immersion dès la petite enfance.
Oui, c'est ça. Là, je crois qu'il y a une grande marge de progression et c'est valable pour tous les cantons bilingues. Mais effectivement, c'est ce qui est ressorti de ce baromètre, c'est que les gens disaient, oui, il faut absolument qu'on améliore nos compétences dans l'autre langue.
Et pour le français et pour l'allemand.
Pour le français et pour l'allemand, et respectivement, parlons clair, pour le dialecte. Parce que c'est une réalité de la Suisse, pas seulement du canton de Berne, les dialectes qui sont utilisés par les alémaniques. Et pour ça, effectivement, il y a beaucoup de choses à changer. En premier lieu, déjà améliorer les échanges linguistiques. Berne fait figure de parent pauvre avec 2% des élèves seulement qui pratiquent un échange linguistique pendant leur scolarité obligatoire, contre 9% en Valais. On voit qu'il y a là aussi, simplement en essayant d'augmenter les chiffres, on a une marge de progression qui est juste énorme.
Alors il y a un gros travail aussi qui pourrait être fait dans l'administration publique et aussi parapublique. On parle notamment des hôpitaux. Et donc c'est pas seulement l'administré qui doit pouvoir être compris et comprendre sa propre langue, c'est aussi le patient. Quand on va à l'hôpital, c'est une question aussi récurrente, un souci de certains députés d'ailleurs.
Ah oui, c'est un souci tout à fait central. La santé, ça touche aux émotions. Et effectivement, on a un hôpital universitaire qui est l'hôpital de Lille à Berne. Et il faut véritablement que cet hôpital, mais également, évidemment, je n'oublie pas l'hôpital de Bienne et les autres hôpitaux régionaux, jouent véritablement cette carte. Les patients sont au centre et il faut véritablement avoir ça à cœur. Mais il faut le répéter en permanence, c'est valable aussi pour la justice, où là, c'est très important de pouvoir utiliser l'une des deux langues officielles du canton de Berne.
Eh bien, ces recommandations, il y en a 46, détaillent en fait tous les aspects de notre vie quotidienne. Il y a la culture, il y a le sport, il y a évidemment d'autres choses. Et on termine peut-être avec cette mesure symbolique, instaurer un logo bilingue.
Oui, hein, ça paraît basique comme ça. Et c'est une des choses qui nous a sauté aux yeux avec les membres de la commission, c'est qu'effectivement, Berne ne jouait même pas, n'utilise pas une image bilingue, alors que c'est historique qu'il se promeut comme canton pont et canton bilingue. Donc, véritablement, je pense qu'il y a des choses même visuelles à changer pour que les mentalités derrière puissent également évoluer.
Virginie Borel, un grand merci d'être venue dans Place Publique. Vous dirigez le Forum du bilinguisme. Vous avez été une des chevilles ouvrières de ce rapport et de ce premier baromètre sur le bilinguisme dans le canton de Berne. On verra ce qu'en pense le gouvernement avec les mesures qu'il va retenir. Ça, c'est pour l'été prochain, sauf erreur. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Et vous retrouvez Place Publique, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur nos applications, sur nos sites web. Merci de nous avoir suivis. Merci à Yannick Frossard pour la réalisation. Bonne soirée.
Place Publique.